Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Tulipe rougie par la brise. Courant d'air affaibli par la pluie. En dents de scie. Le blé est coupé. Terre fumante et chaude le matin. Le soleil se lève. Le ruisseau déborde sur les pierres grises. Charrie des troncs et des brindilles. Des feuilles écarlates. La lune alignée provoque une éclipse si effrayante. La nuit arrive en plein jour. Le givre dans la prairie, comme de la neige, je glisse. Les pins aux fines aiguilles flirtent avec les genêts en fleurs. Le serpolet au bord du chemin n'est pas cueilli. Le tilleul aux senteurs délicates attire les abeilles. Je me réveille.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Émission que vous pouvez aussi écouter sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Régine Mézinck. Bonjour.
Bonjour.
Régine Mézinck, nous venons d'écouter une de vos poésies intitulée...
Alors, il s'agit de Réveil sonore.
Un réveil sonore. Vous êtes écrivaine ?
On peut peut-être pas dire les choses comme ça. Disons que je fais ce travail d'écriture depuis maintenant très longtemps, puisque pendant mon enfance déjà, j'ai commencé à écrire. J'ai même apporté un premier poème que j'ai écrit à l'âge de 13 ans. C'était mon professeur de français donc, qui nous avait demandé de faire ce travail. Et je peux vous le partager. Il s'appelle « Narcisse ». Des cimes déjà cessent le pur pillage. La voix des sources change et me parle du soir. Un grand calme m'écoute, où j'écoute l'espoir. J'entends l'herbe des nuits croître dans l'ombre sainte, et la lune perfide élève son miroir, jusque dans les secrets de la fontaine éteinte.
Ça, c'est un poème que vous avez écrit donc à 13 ans. C'est ça ?
Voilà, c'est ça, en cours de français. Je pense que c'est là que vraiment le travail a commencé.
Ça relève de quel niveau ? Cinquième, quatrième ?
Quatrième, à peu près.
Quatrième. Voilà. À cette époque-là, vous aviez cette aisance avec le vocabulaire, une grande richesse de mots ?
À l'époque, je faisais plutôt des arts plastiques. Je dessinais beaucoup. On va dire que le travail autour du texte était secondaire. Mais petit à petit, pendant l'adolescence, j'ai tenu un journal intime. Donc tous les soirs, j'écrivais.
Vous voulez dire qu'avant d'écrire, vous imaginez un tableau et vous l'amenez sur une écriture ?
Alors, pas vraiment. Je dirais que l'écriture, elle vient... Enfin, en tout cas, la poésie, elle est partout. Elle est dans le quotidien, elle est... avec des petites choses, des personnes qu'on croise, des choses qu'on voit, des odeurs aussi. L'autre jour, je me promenais dans la rue et je me suis dit, tiens, ça sent le linge mouillé. Quand on va étendre le linge a une odeur, surtout si on étend ici à la campagne. Donc je dirais que la poésie, elle est vraiment partout là où on peut la trouver.
Une poésie empreinte d'odeur alors ?
Oui, on peut dire ça. En fait, tout m'inspire et me traverse. Je pense que c'est ma sensibilité très forte qui fait que j'arrive à écrire tous ces textes-là qui parlent finalement de beaucoup de sujets variés.
C'est une poésie sur la mémoire également ?
Oui, je suis très empreinte de mon enfance parce que j'ai grandi ici dans le Diwa, dans une ferme isolée. Donc j'ai vécu beaucoup seule et j'étais beaucoup en contact avec la nature. J'ai grandi au bord des ruisseaux et dans les forêts, dans la forêt, dans les marnes. Voilà, c'était mon terrain de jeu, mes terrains de jeu. Et tout cela, ça m'a beaucoup nourrie.
Je voulais savoir, l'odeur, qu'en est-il aujourd'hui d'elle ?
À l'odeur, les odeurs plutôt. Les
voilà, avec tous ces artifices qu'on en trouve dans les commerces pour amener des ambiances ou des senteurs artificielles. Hein. On en est où, nous, avec notre propre odorat d'humain?
Je n'aime pas trop les odeurs artificielles. D'ailleurs, j'ai en tête là une odeur d'essence de lavande qui est fabriquée d'ailleurs dans mon village, à Mont-Laurent-d'Iois, mon village d'origine. Et je crois que cette odeur d'essence de lavande, j'essaye si possible de l'avoir en moi. Enfin, en tout cas, elle m'accompagne souvent, je la mets sur les poignets, elle me rassure aussi. Donc, si possible, des odeurs naturelles, c'est mieux que des odeurs artificielles.
Qu'est-ce qui vous a amené à cette écriture de ces poésies et qu'est-ce que vous en aviez envie d'y exprimer?
Cette poésie fait partie de moi. Je crois que je ne peux pas vivre sans. J'ai besoin de m'exprimer ainsi. Alors, avec les arts plastiques ou la peinture... C'est bien aussi, mais ça nécessite une installation, c'est-à-dire que vous devez avoir un endroit pour faire votre travail, pour apporter vos pinceaux, votre peinture. Alors que la poésie, ça surgit d'un coup, où il suffit d'un petit bout de papier ou d'un ordinateur à côté pour écrire des mots, écrire des petits poèmes très rapidement. D'ailleurs, j'ai participé à un atelier d'écriture avec Françoise Marc, que je salue au passage, qui nous avait proposé d'avoir toujours à la main un petit carnet. Et comme ça, à tous les moments de la journée, on pouvait écrire quelque chose qui nous inspirait, noter une petite phrase entendue à la radio ou dans la rue. Parce que, comme je vous dis, la poésie, elle est partout et c'est à nous à saisir chaque bribe, chaque petite chose qui nous arrive de l'extérieur.
Vous voyez la poésie partout. Est-ce que vous pensez que c'est assez communément partagé, cette notion? Ou alors, il y a peut-être une éducation ou peut-être une réappropriation de cette poésie pour tous?
Alors, je dirais que c'est quand même assez marginal, la poésie, il me semble. Bien qu'on commence à voir apparaître des poètes, enfin des écrivains poètes, je dirais, comme Christian Bobin, qui commence à être, oui, quand même très, très connu. Mais je dirais que ce n'est pas la majorité des gens qui lisent de la poésie, peut-être. Mais j'aimerais justement que ce soit au contraire. Moi, j'aimerais participer à ça. Que la poésie, je pense qu'elle n'est pas réservée à certaines personnes. Ce n'est pas intellectuel, la poésie. Au contraire, pour moi, c'est vraiment à fleur de peau, quoi. Ça me touche. C'est chaque chose de la vie, chaque événement, chaque sensation. Voilà. C'est complètement physique, la poésie.
Christian Bobin, pour vous, est une référence, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous avez découvert en lui et qui vous emmène et qui vous inspire, peut-être?
Oui, Christian Bobin, pour moi, c'est un grand écrivain avec cette grande sensibilité de faire justement des choses simples de la vie, des choses extraordinaires. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais moi, il m'émeut profondément. Notamment quand il décrit l'église, l'abbatiale de Conques, avec l'abbatiale de Conques à des vitraux donc, qui ont été faits par Soulages, le peintre Soulages, qui peint beaucoup avec la couleur noire, mais qui ce noir en fait reflète la lumière. Donc c'est vrai que cet artiste Soulages et Bobin, pour moi, c'est le summum de la poésie.
Chez Bobin, il y a cet aspect aussi... pour moi, irrationnel, c'est-à-dire d'avoir une pensée aussi pour Dieu.
Ah oui, complètement. Oui. Mais ça aussi, ça m'a beaucoup nourri pendant mon enfance. En fait, j'ai eu une éducation religieuse, même si aujourd'hui je ne suis pas pratiquante. Mais je suis beaucoup inspirée par la poésie chinoise et notamment le Tao poétique. Alors j'ai beaucoup lu pendant ma jeunesse des poèmes de Wang Wei, par exemple, qui est un grand écrivain chinois. Et je me rends compte que tout ça m'inspire encore et je continue. Voilà. Si ma maison brûlait, je sauverais ce livre. Parce que c'est vraiment la base et l'influence aussi de ce que je fais aujourd'hui.
Ce livre, on peut le retrouver certainement dans une bonne librairie, mais peut-être que celui-ci est complété d'annotations, de petits papiers.
Il y a un poème de Wang Wei que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Visite au temple du parfum accumulé ». Je ne sais trop où se trouve le temple du parfum accumulé. Quelques lits à peine, déjà nuages et pics, des arbres antiques, personne sur le sentier. Montagne profonde, le son d'une cloche d'on ne sait où. Une source susurre sous les grands rochers. La couleur du soleil refroidit à travers les pins verts. Au crépuscule, l'étang est désert. Calme contemplation, dragon venimeux apprivoisé.
Le Tao, vous le définissez comment ?
Je dirais que le Tao, c'est le chemin sur lequel on marche. Justement, au début du livre, il y a une explication de ce Tao qui dit « Le Tao, c'est marcher, s'arrêter, contempler et repartir. » Je pense que c'est assez vrai et c'est vraiment ce qui m'a aussi nourrie quand j'étais enfant. En fait, j'ai fait du Tao sans le savoir, puisque pendant mes petits tours dans la nature, mes petites promenades, j'allais, je venais, je m'arrêtais et je repartais. Et j'observais.
L'observation, donc, le deuxième sens sollicité, après l'odorat, la vue. Et pour ce qui est de l'ouïe, il y a des choses qui vous plaisent aussi.
Oui, je pense que tous les sens sont présents. L'ouïe, c'est aussi le silence, quelque part. Arriver à entendre le silence... C'est pas rien, finalement. Parce que quand vous grandissez dans la nature, vous n'avez pas tous ces bruits artificiels dont on parlait tout à l'heure. On n'est pas perturbé. Il y a juste le bruit de l'eau, le chant des oiseaux. Quelquefois, on entend un engin agricole, peut-être, qui vient troubler ce calme. Mais peu de choses, finalement. Donc j'ai appris à grandir dans le silence aussi.
Et le sens du toucher, évidemment, dans la nature, on ne peut pas en trouver mieux, non ?
Ce qui me vient à l'idée, là, c'est quand on met les mains dans les petits cailloux au bord du ruisseau. Là, ça vous masse les doigts, ça vous gratte, c'est un vrai bonheur. Et puis la froideur de l'eau aussi. Quand on est enfant, on aime beaucoup jouer au bord du ruisseau. Et... Tout ça, c'est dans ma mémoire encore.
Vous êtes de Montlaur, vous y vivez depuis toujours ou alors vous êtes allé voir ailleurs et puis revenu ?
Alors, jusqu'à l'âge de 18 ans, je suis restée ici. Ensuite, j'ai quitté le Diois pendant 10-12 ans à peu près. J'ai habité en grande ville, j'ai habité successivement à Grenoble, à Lyon et à Paris. Et je suis revenue il y a une vingtaine d'années.
Et là, ça a été une cassure pour vous, justement, avec ces bouleversements de cité, d'odeur, de bruit. Ça a provoqué une autre manière d'écrire, peut-être, là-dessus ?
Non, je dirais pas ça. En fait, j'aime aussi la ville, parce que j'ai eu la chance d'aller sur New York quand j'avais une vingtaine d'années. New York m'a beaucoup inspirée aussi. Après, quand je suis revenue ici, c'était quand mes enfants sont nés. Donc j'étais dans une autre dynamique et je n'avais pas trop le temps d'écrire, malheureusement. On va dire que l'écriture, elle est revenue assez récemment, de manière assez intense depuis 4-5 ans maintenant.
Une question de curiosité, en étant à New York, à Manhattan par exemple, au milieu de ces gratte-ciels, est-ce que le jour arrive dans les rues ?
Oui, complètement, mais il y a aussi de la poésie à Manhattan, bien sûr. Après, on est beaucoup dans la rapidité, il y a une certaine violence quand même, qu'on ne ressent pas ici. Je trouve, c'est une ville où on travaille, où chaque minute compte. Donc, c'est très différent parce que quand je suis allée à New York cet été-là, je suis ensuite revenue directement dans mon village d'origine. Et là, effectivement, L'adaptation, j'ai dû prendre quelques jours de réadaptation à ce mode de vie tranquille. Ça n'a rien à voir.
Vous étiez comme devenue sourde.
Sourde, peut-être pas, mais je me souviens être retournée justement près de la maison de mes parents en position de méditation sur la montagne. Et j'avais besoin de ça, oui, je me revois encore là. Un peu, oui, c'est ça, en méditation, on va dire. Et j'avais besoin de me poser après ce voyage, c'est clair.
Vous aviez écrit quelques textes à l'époque de New York ? Est-ce que vous en avez quelques-uns ici ou...
Non, j'avais pris des photos, parce que je fais aussi de la photographie. Non, New York, je n'ai pas écrit sur New York, parce qu'il y avait des choses à vivre là-bas. C'était la visite des musées, c'était découvrir la vie trépidante.
Il n'y a pas le temps pour la contemplation, en somme.
C'est plus difficile. Hein. Quand vous êtes au sommet de l'Empire State Building, oui, on peut toujours contempler. Mais bon, les Américains sont des gens quand même qui font les choses rapidement. On ne prend pas beaucoup le temps de manger, on se dépêche, on va travailler. D'ailleurs, je sais qu'ils ont moins de congés que nous. Mais bon, New York n'est pas toute ma vie. Hein. C'était vraiment juste un moment dans ma vie.
Et nous allons peut-être continuer avec une nouvelle lecture.
Les filles du mois d'avril. Les filles du mois d'avril ne se découvrent pas d'un fil. Les jeunes gens sont beaux, mais ils ne sont pas très féroces. Ce petit monde s'évite et ne se retrouve pas avant les dernières gelées du mois de mai. Et si l'envie leur vient de faire ce qui leur plaît, ils n'attendent pas l'été. Qui nous aide à nous révéler ? Qui prend soin de nous ? Qui nourrit notre esprit ? Je vous lis la Bible et la Bhagavad Gita. Dans mon monde intérieur, mon âme m'habite et j'habite mon âme. Se peut-il que nous avancions d'un pas pour reculer de deux ? Je ne suis pas au-dessus de vous, seulement au-delà. Et en vous aussi. Je vous apporte la paix, l'amour et l'abondance. Les filles du mois d'avril ont dû se rhabiller, car en juillet, il pleuvait. Pour celles qui n'ont pas croqué la pomme, rendez-vous au rattrapage en septembre. Et si d'aventure la session est annulée, il faudra attendre l'année d'après. Les filles du mois d'avril ne se découvrent pas d'un fil.
Un texte que vous avez écrit à quel moment ?
Je ne sais pas. Ça doit être l'année dernière. Quelquefois, je note la date, mais là, oui, je dirais en 2019.
Vous avez cet esprit de contemplation, je suppose, puisque c'est une nécessité de la poésie, certainement. Est-ce que vous avez vu ce paysage du Diwa se transformer aussi depuis que vous y êtes né ?
Oui, mais pas tant que ça. Je trouve qu'il n'est pas défiguré pour autant. Oui, certes, on voit les maisons fleurir, on voit des lotissements qui se construisent. En fait, quand j'étais enfant et jeune et adolescente, j'avais un mode de vie très restreint, c'est-à-dire je faisais école, lycée, la maison. Donc je naviguais pas tant que ça aux alentours. C'est après que l'univers s'est ouvert.
Donc, vous êtes allé étudier dans des grandes villes, je suppose, comme Grenoble, Lyon ou Paris ?
Grenoble, où j'ai fait des études de communication. Lyon, où j'ai pu faire quelques stages dans ce domaine-là. Et Paris, où j'ai étudié l'histoire de l'art.
Pour vous, la communication, c'était une logique pour vous de pouvoir continuer l'écriture ?
Disons qu'à cette période-là, j'étais plus orientée vers le graphisme. Donc pour moi, c'était l'occasion soit peut-être de devenir graphiste ou de travailler dans un secteur quand même qui était assez créatif. Mais l'écriture, comme je vous dis, elle était à cette époque-là assez secondaire.
Le graphisme vous a permis, en quelque sorte, de créer aussi et de mettre en évidence ce que vous aviez envie d'exprimer.
Oui, tout à fait. J'ai travaillé comme chargée de communication avec des graphistes en région parisienne, mais pas en tant que graphiste moi-même. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai eu ce poste-là dans les Yvelines, au Conseil Général, j'ai écrit des articles et j'ai organisé des événements. Donc l'écriture, oui, elle, finalement, voilà, c'est là que ça a vraiment pris son essor.
La poésie, c'est ce que vous pratiquez principalement, ou alors il vous arrive aussi d'écrire soit des nouvelles ou d'autres types de textes?
Oui, je peux écrire d'autres types de textes. Alors, je n'ai pas vraiment apporté ça aujourd'hui. Quoique, je peux vous en lire un. C'est inspiré d'une interview de Jacques Attali, donc, que j'ai entendue sur France Inter. Alors, je pense que ça fait quelques années de ça déjà. Et ça s'appelle « La fourchette de Jacques Attali ». Jacques Attali a dit « Cela fait bien longtemps que je n'ai pas mis une fourchette dans le lave-vaisselle. Cela veut-il dire que je l'envie pour autant ? Tous les jours, je remplis, je vide, je remplis, sans me poser de questions. » Se pourrait-il qu'une autre main que la mienne répète ses gestes quotidiens? Et que dire de ceux qui font la vaisselle à la main? Jacques Attali n'a pas d'avis là-dessus. Il est invité, il dîne à l'extérieur. La fourchette, une fois salie, ne le concerne plus. Jacques Attali l'a dit.
Vous êtes assez vigilante sur ce qui est communiqué dans les médias au point d'inspirer pour vous, d'inspirer pour vous des textes ou des écrits.
Voilà, c'est la seule fois où une émission, je dirais, m'a inspirée. Mais justement, je trouve qu'un lave-vaisselle, ça a quelque chose de poétique. D'ailleurs, il y a François Tcheng aussi, qui est un poète assez renommé, qui, j'ai vu dans ses poèmes, parle aussi du ronronnement de ce lave-vaisselle. Et c'est vrai que là, c'est ce côté, en fait, ce qui m'a inspirée chez lui, là, c'est la différence entre la vie des gens, c'est-à-dire que Jacques Attali, qui est économiste, conseiller, enfin, je ne sais pas trop ce qu'il fait exactement, mais bon, voilà, le souci pour lui, ce n'est pas d'aller faire sa petite vaisselle, il est à un autre niveau. Et moi, en tant que maman au foyer, avec trois enfants, mon souci premier, c'était que la vaisselle soit propre. Et que j'avais personne qui allait faire la vaisselle à ma place. Donc c'est vraiment l'écart entre les populations, entre nous.
Entre deux mondes.
Oui, c'est ça, oui. Parce que ce que je dis, je pense que c'est vrai. Il est invité, il dîne à l'extérieur. Alors que bon, les personnes comme vous et moi, voilà, on a notre petit train-train quotidien à assumer, quand même. Lui, il peut être aidé. Enfin, il est au-delà de ça.
C'en est même étonnant qu'il se pose cette question.
Oui, complètement, oui. C'est comme les hommes politiques, ils ne connaissent pas le prix d'un pain au chocolat, qui pensent qu'un pain au chocolat coûte 15 centimes.
Ou alors c'est parler pour ne rien dire aussi.
Peut-être. Je ne me souviens plus du contenu exact de cette interview, mais vraiment, ce qui m'avait marqué ce jour-là, c'est ce détail de la fourchette, quoi. C'est drôle en même temps.
Régine Mézinck, vous en êtes où avec l'écriture pour vous dans votre parcours? Vous êtes encore dans la découverte, dans la recherche, ou alors vous êtes déjà dans l'affirmation aussi?
Oh, l'affirmation. Je ne sais pas si je peux dire que je suis encore très affirmée. Disons que je travaille, quoi, voilà. Je pense que l'écriture, c'est un travail et c'est jamais peut-être complètement abouti parce qu'il y a tellement encore à explorer. Mais effectivement, je me dis que peut-être ces textes, je pourrais les faire vivre, soit en les éditant ou pourquoi pas au travers d'autres artistes qui pourraient les mettre en scène. En fait, je ne sais pas encore exactement, mais Les sortir de ce dossier-là, oui, comme on le fait aujourd'hui, ça m'intéresse. Mais il y a quelque temps, je n'étais pas encore prête pour ce travail. Et ben, après, je me suis dit, pourquoi pas, d'autres le font, pourquoi pas moi? Mais il faut avoir quand même confiance en soi, voilà, déjà pour faire ça.
Vous parliez de Christian Bobin, d'un autre auteur, François Tcheng.
C'est chinois. Oui, alors François Tcheng, il a écrit... oui, il est assez renommé maintenant. Je n'ai pas sa biographie en tête. Mais il m'a beaucoup touchée aussi par cette poésie très légère et orientale. En fait, je suis beaucoup touchée par l'Orient. Il y a un côté aussi, bah, oui, il parle du Tao, hein, si je me souviens bien. Parce qu'en fait, dans le Tao, du rien naît le tout. Donc tout est possible, toutes les possibilités sont là.
Et donc, vous avez essayé de découvrir d'autres poètes contemporains?
J'aime bien aussi Federico Garcia Lorca. Je ne vais peut-être pas le lire en entier parce que c'est quand même assez long. Mais c'est un poème qu'on apprenait à l'école primaire qui s'appelle « Complainte somnambule », qui est très surréaliste hein, d'ailleurs. C'est « Verte que je t'aime, verte, verte brise, vert ramage, le bateau est sur la mer, le cheval dans la montagne. Elle a l'ombre sur la taille et rêve à sa balustrade. Verte est sa chair, cheveux verts, son regard de froid métal. Verte, que je t'aime, verte. Au clair de lune gitane, elle ne peut voir les choses et les choses la regardent. »
Je reviens sur d'autres poètes d'aujourd'hui. Par exemple, en France, vous en connaissez d'autres?
Des poètes vraiment actuels Non, je suis plutôt encore sur des poètes plus anciens, 20e siècle. J'aime bien Paul Éluard aussi. Et Jacques Prévert, bien sûr, que je lis régulièrement.
Mais est-ce que la poésie, c'est pas simplement un questionnement sans cesse de ce qui nous entoure?
Oui, c'est ça. C'est un, comme je le disais déjà, je me répète hein, sûrement, mais c'est un travail permanent. Comme je disais que tout me touche en fait et que je trouvais de la poésie partout. Oui, c'est ça quelque chose. C'est quelque chose sans. Enfin, je peux pas vivre sans poésie. Maintenant, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai un petit texte de Michel Léris qui parle de la poésie et qui dit « Cette chose sans nom, d'entre rire et sanglots, qui bouge en nous et qui, diamant de nos pensées, après le sommeil de bois mort, constellera le blanc du papier. »
Vous connaissez uniquement Léris comme poète ?
Je ne connais pas très bien Léris, à vrai dire. Je suis tombée par hasard sur ce carnet ce matin et sur ce texte. Et je me suis dit, ça tombe pile poil, puisqu'aujourd'hui, on improvise, improvisons.
Est-ce que vous êtes sur Internet? Est-ce que vous avez un blog sur lequel vous présentez vos écrits?
Pour l'instant, je reste très discrète. J'envoie quelques textes à des amis... qui me font des retours. J'ai une amie qui est correctrice, qui s'appelle Catherine Grosso et qui a une agence à créer. Donc, elle, régulièrement, elle jette un œil, elle corrige. Voilà, j'ai quelques retours de personnes qui me connaissent bien maintenant et qui aiment aussi la lecture et la poésie. Donc, elle me donne un coup de main. Pour l'instant, ce n'est pas une activité à plein temps.
Vous parliez tout à l'heure de Françoise Mar pour ses ateliers d'écriture. C'est pour vous aussi une manière de partager ce moment avec d'autres sur le texte, l'écriture, et d'y échanger aussi les sentiments, les sensibilités?
Oui, alors c'est très enrichissant déjà d'avoir un sujet donné, parce que soi-même, on tourne souvent dans les mêmes choses. Donc, avec des sujets imposés, vraiment, ça permet de se dépasser et de se surprendre. Et ce qui est intéressant, c'est non pas de... Voilà, si c'est intéressant de lire ce qu'on a écrit, mais surtout d'entendre et d'écouter vraiment ce que disent les personnes présentes à l'atelier. Et ça, c'est vraiment une grande richesse et une grande ouverture. Et ça permet d'avancer, oui.
L'écriture, pour vous, est quand même une partie essentielle, mais vous avez peut-être d'autres occupations?
Alors, je pratique maintenant le yoga depuis plusieurs années, et notamment sur dit le Kundalini yoga, qui est un yoga très engageant et en même temps qui qui a changé ma vie. Enfin, ça m'a fait évoluer assez vite. Et d'ailleurs, j'ai écrit un texte sur cette pratique. Kundalini Yoga. Au début, je n'avais pas compris les codes, pensant « le yoga est une mode ». Mais désormais, tous les mercredis, j'y vais. Je me suis mise à réciter des mantras que j'annonnais, à saisir les bienfaits profonds des pouvoirs du son. Bien droite sur un coussin, je me tiens. À chaque inspiration, vivante, je deviens. L'air dans ma gorge fait du bruit et mon ego grandit quand Manipura fleurit. Les vibrations du gong traversent mon corps à la renverse. Le frémissement nous rend impermanents. La voix du prof est douce, me voilà sur de la mousse. C'est comme une caresse, je déstresse. Mais pas le temps de s'endormir. Il nous remet en mouvement avec quelques kriyas, sans répit, déjà. Mon côté sauvage ressurgit. D'une grotte, je suis sortie. Mon vocabulaire s'enrichit. Satnam, Mulabandha, Mahamudra. Pas envie de m'en aller quand l'heure a sonné. Je fais la feuille pliée. Je capitule. Je me rends. La nuit est tombée pendant ce temps. J'écoute le silence à présent.
Merci. Le Kundalini Yoga, c'est comme ça qu'on le dit, c'est une des disciplines qu'on peut trouver dans le yoga. Il doit y en avoir une multitude. Qu'est-ce qui vous intéresse dans celle-ci ?
J'aime beaucoup l'aspect ancien de ce yoga. C'est un peu le yoga des premiers, le yoga des cavernes. En fait, Kunda, ça veut dire caverne. Donc, on est en plein dans les origines là. Et c'est vrai que moi, je recherche toujours l'origine des choses. J'ai toujours besoin de savoir au départ comment c'était. Voilà. Et je pense que voilà, c'est pour ça que ce Kundalini Yoga me convient et me touche autant et me permet d'avancer tous les jours sur ma route.
Vous parliez de chemin tout à l'heure. Vous pratiquez aussi la randonnée, la marche dans la nature.
Ah oui, énormément.
Et dans une ouais, sorte de quête, d'une grotte par exemple ou une caverne.
Je ne vais pas aller chercher forcément la caverne, mais oui, depuis toute petite en fait, je suis dans ce cheminement d'être dehors et de marcher. D'ailleurs, ça m'est très difficile de travailler dans un bureau parce que j'ai besoin de déplacement. J'ai besoin d'aller d'un point à un autre. Et enfant, c'était comme ça. Alors après, quand vous êtes dans une ville, c'est plus difficile. Quand vous vivez à Paris et que vous allez travailler dans un bureau, les choses se compliquent. Mais le fait de vivre ici, c'est tellement simple de sortir de chez soi et d'aller marcher, même si on n'a qu'une heure ou deux. Oui, je marche régulièrement et puis quelques fois aussi en haute montagne ou même à l'étranger, au Maroc ou au Népal.
Tout à l'heure, je vous parlais de ces auteurs poètes contemporains, dont certains que j'avais vus dans des rencontres ou des colloques de la poésie, et où ils se suivaient les uns après les autres à lire leurs textes. Est-ce que dans ce que vous faites, vous, et puis d'autres, dans l'atelier d'écriture de Françoise Marre, par exemple, vous auriez l'idée prochaine, peut-être, d'organiser une lecture collective en public ?
Alors ça, il faudrait le demander à Françoise Marre, parce qu'actuellement, je ne travaille pas dans son atelier. Mais oui, c'est quelque chose qui pourrait se faire, notamment peut-être avec le Printemps des Poètes. Je sais que chaque année, autour du mois de mars, il y a cette journée consacrée à la poésie. Donc oui, il y a des possibilités, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui écrivent sur le Diwa et ailleurs. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec l'écriture. Ça peut être très vivant.
Régine Mézinck, nous allons bientôt terminer cette émission. On peut peut-être la finir avec un de vos textes de nouveau. Vous aviez amené quand même avant des petits carnets, des petits ouvrages, et le Tao poétique. Il y a d'autres notes aussi qui sont importantes pour vous dans ces petits ouvrages.
Oui, alors c'est un travail que nous avait donné Françoise Marre, notre animatrice d'atelier d'écriture. c'était de travailler à la manière de Sae Shonagon, qui est une écrivaine japonaise du XIe siècle, si mes souvenirs sont bons. Et c'était des exercices très amusants à faire. En fait, il fallait parler des choses qui nous donnent confiance, des choses enviables, des choses qui nous semblent pures, etc. Et je peux en lire quelques-unes. Justement, les choses enviables. Je parlais du yoga tout à l'heure, et oui, les postures des yogis toujours souples. Faire des ouvrages magnifiques au crochet. Quand on est triste, voir les autres rire et s'amuser. Faire des bocaux, des confitures, des liqueurs, comme certains l'été. Écrire des livres et les éditer. Une maison avec un grand balcon ou un petit jardinet. Voir ses enfants prendre le train, on voudrait faire pareil. L'insouciance des adolescents.
Merci. Régine Desmézins, que je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
And all the others, they want something, they'll get some good.